écoutez sur Radio Franca.
Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour, nous sommes les 5e A de Tucneux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des héros et héroïnes.
Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, décédée le 30 juin 2017 à Paris. Elle était de nationalité française et de religion juive. Née Simone Jacob, elle sera déportée en 1944 à l'âge de 16 ans au camp de concentration d'Auschwitz. Elle sera libérée en 1945 avec ses deux sœurs. À son retour, elle deviendra une étudiante brillante. Elle s'est mariée à Antoine Veil et sera mère de 3 enfants. Une brillante carrière professionnelle et politique. 1956, elle devient magistrate. 1967, elle devient haut fonctionnaire. 1970, elle est nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, une première pour une femme. 1974, elle devient la première femme ministre de la Santé. 1979, elle est la première présidente du Parlement européen. Elle y restera 14 ans. 1993, elle accède au poste de ministre de l'État et ministre des Affaires sociales. 1998-2017, elle siège au Conseil constitutionnel. 2000-2007, elle dirige la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Loi sur l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Quelques dates. Après la guerre et avec les mouvements sociaux de mai 1968, il y aura de nombreux combats pour défendre les droits de la femme. Avant 1974, l'IVG est interdite en France. De nombreuses femmes françaises allaient se faire avorter de façon illégale à l'étranger en mettant leur santé en danger. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en 1974, charge Simone Veil de proposer un projet de la loi sur l'IVG. Ministre de la Santé, elle propose un texte de la loi sur l'IVG le 26 du 11 du 1974 à l'Assemblée nationale où sont votées les lois. Il y aura alors de grosses tensions, elle sera critiquée et insultée également dans les médias. Après 4 jours de débats difficiles, Simone Veil garde sa volonté de faire passer la loi pour protéger les femmes. La loi sera adoptée le 29 du 11 de 1974. Contenu de la loi, délai légal pour pouvoir avorter est de 10 semaines de grossesse. Toutes les femmes enceintes, même mineures, ont le droit à une IVG si elles le désirent, avec consentement des parents pour les filles mineures. L'avortement doit être pratiqué par un médecin dans un établissement de santé. Frais pris en charge par la Sécurité sociale, acte peut rester anonyme. Simone Veil, l'immortelle, elle entre à l'Académie française en mars 2010. C'est la 6e femme de l'histoire à accéder à cet honneur. L'épée d'académicienne symbolise son destin exceptionnel. Moins 78 651, c'est la matricule tatouée sur son bras gauche lors de sa déportation que Simone Veil n'a jamais cachée. La tache du fourreau, elle représente un visage de femme souriant qui rappelle son engagement en faveur de la cause des femmes. Les devises « Liberté, égalité, fraternité » et « Unis dans la diversité » sont gravées sur la lame, symbole de son engagement en politique. Conclusion, Simone Veil fait partie des grandes femmes. D'ailleurs, le 1er juillet 2018, Simone Veil est inhumée au Panthéon, devenant la 5e femme à reposer dans le temple de la République à Paris. Malgré tous les malheurs que la vie lui a apportés, elle a défendu la cause des femmes avec courage, force et détermination, telle une héroïne. Son histoire personnelle a fait d'elle une femme de caractère, indépendante avec une grande soif de liberté.
Catherine Schuster est née le 5 janvier 1947 à Washington. Sa famille était allemande, elle avait donc une double nationalité. Depuis très jeune, Catherine court très vite. Elle a toujours voulu devenir une athlète depuis que son père lui a fait comme réflexion que ça ne devait pas être elle qui encourage les autres, mais plutôt les autres qui devaient l'encourager. Il lui a dit ceci car elle était pom-pom girl et ça ne lui plaisait pas du tout. C'est grâce à cette réflexion que sa vision du monde va changer. En premier lieu, elle rejoignit une équipe de hockey où elle est très forte. Ensuite, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son domaine, mais que c'était la course à pied. Le problème était qu'à cette époque, c'était très mal vu pour une femme de courir et que c'était même interdit. En 1967, elle décida de rejoindre le club de course de l'université de Syracuse. Malheureusement, elle reçut des lettres malveillantes de la part d'hommes qui lui disaient que c'était horrible pour une femme de courir. Le coach de Catherine s'appelait Arnie Briggs. Il était très fort dans la course à pied et il a même fait 15 fois le marathon de Boston. Arnie lui dit à Catherine que si elle parvenait à parcourir la distance du marathon de Boston lors des entraînements, alors il l'emmènera personnellement à Boston et il participera au marathon avec elle. Mais alors comment Catherine va pouvoir s'inscrire si c'est interdit? Contrairement à tout ce que tout le monde croit à l'époque, rien n'interdit réellement une femme d'y participer. À cette époque, c'était tellement évident qu'une femme ne pouvait pas courir en compétition qu'ils n'ont même pas pris le temps de le marquer dans le règlement officiel. Alors ils s'enregistrent tous les deux pour le marathon, mais en plus de ça, il y avait le copain à Catherine qui voulait faire cette course avec elle, car pour lui, si n'importe quelle fille peut faire ce marathon, alors lui aussi. Le 19 avril 1967, c'est le grand jour. Tous les trois se rendent à Boston pour faire la course à pied. Coup de chance, ce jour-là, il pleuvait, donc il était impossible de reconnaître Catherine sous sa capuche. Le coup d'envoi retentit et la course commença. Après 4h20 de course, Catherine passe enfin la ligne d'arrivée, malgré les péripéties qui lui est arrivées. Tandis que son copain, lui, est arrivé une heure après elle. C'est totalement historique et la presse entière est rassemblée pour immortaliser ce moment. Grâce à son exploit, Catherine va créer un véritable mouvement de foule. Son histoire fait le tour du monde et toutes les femmes commencent à porter le numéro 261, qui est le numéro de Catherine pendant la course en son honneur. Tout aurait pu s'arrêter là et on aurait pensé que c'est bon, les femmes peuvent courir. Mais malheureusement, le combat de Catherine pour faire bouger les choses va encore durer plusieurs années. Car après la course, le directeur va tout simplement disqualifier Catherine et l'association d'athlétisme va la rayer de toutes les listes et ils en profitent aussi pour ajouter que dans le règlement officiel que les femmes n'ont pas le droit de participer au marathon sous peine d'être bannies. Les années qui suivent, de plus en plus de femmes vont participer au marathon en cachette malgré l'interdiction. 5 ans plus tard, en 1972, face à la pression, le marathon de Boston finit par céder et autorise enfin les femmes à participer. Et tout ça, c'est grâce à Catherine. Catherine est une héroïne aux yeux des femmes à cette époque. Comme anecdote, j'ai choisi que pendant la course, le directeur Joke a remarqué qu'une femme faisait la course, ce qui l'a mis en furie. Il va donc au niveau de Catherine et lui tapote l'épaule en lui faisant un signe non du doigt pour lui dire de s'arrêter là. Mais Catherine refuse et elle continue sa course, paisiblement. Mais Joke s'enflamme. Et il va agripper l'épaule de Catherine de toutes ses forces et il va tenter de lui arracher le numéro de sa tenue en lui hurlant de sortir de sa course. Ce moment sera immortalisé par les journalistes du marathon et c'est devenu l'une des 100 photos à avoir changé le monde selon les journaux, tellement elle symbolise une triste histoire de sexisme. Par la suite, le copain à Catherine fonce dans Joke et le choc fut tellement violent que Joke est expulsé de la course.
Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, aux États-Unis. Il est assassiné dans un motel de Memphis le 4 avril 1968 à 39 ans, par un repris de justice. On lui donnait pour surnom MLK. Martin Luther King était de nationalité américaine. À l'âge de 12 ans, il entre à Morehouse College. C'est une université réservée aux garçons noirs. Il obtient son doctorat en théologie à l'université de Boston le 18 juin 1955. Martin Luther King a été confronté à sa première ségrégation raciale à l'âge de 6 ans en classe quand deux de ses camarades blancs lui disent qu'ils ne sont plus autorisés à jouer avec lui. Par exemple, une femme afro-américaine au nom de Rosa Parks n'a pas voulu céder sa place dans le bus à un passager blanc comme elle était tenue de le faire selon la législation. La nuit suivante, 50 dirigeants de la communauté afro-américaine, emmenés par un jeune pasteur peu connu à l'époque, donc Martin Luther King Jr., ils se réunissent pour discuter des actions à mener. Ils fondent la Montgomery Improvement Association, dont Martin Luther King en est le président. Donc, il se distingue dans le domaine de la lutte contre le racisme. Le boycott se termine par une décision de la Cour suprême des États-Unis le 21 décembre 1956, déclarant illégale la ségrégation dans les autobus, restaurants, écoles et autres lieux publics. Le 14 octobre 1964, le jeune pasteur reçoit le prix Nobel de la paix. Mais son mouvement est de plus en plus contesté et concurrencé par des groupes de violents comme les Black Muslims. Donc, comme anecdote, sa lutte pour les droits civiques, de meetings en marche pacifique, comme celle du 25 août 1963 sur Washington qui a réuni 250 000 personnes, a réveillé la conscience du pays et a grandement participé à l'instauration d'une société plus juste. Son action lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 1964.
Eleven est le personnage principal d'une série. Stranger Things est une série de science-fiction horrifique américaine. Elle est diffusée depuis le 15 juillet 2016. Cette série comporte 4 saisons, 34 épisodes et une cinquième et dernière saison prévue pour 2024. Elle est créée par les deux frères Matt et Ross Duffer. L'intrigue s'installe sur plusieurs années entre 1983 et 1986. Un soir de novembre 1983, dans la ville américaine d'Hawkins, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver. Sa mère Joyce, ses amis Lucas, Dustin et Mike, guidés par la mystérieuse Eleven, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, c'est des pouvoirs liés à la connaissance et aux émotions des autres, ainsi que le chef de la police, Jim Hopper. Son nom de naissance est Jane Eves. Elle est née en 1971 et vit avec son père biologique dans le laboratoire Dawkins aux États-Unis. Ensuite, elle alla vivre avec son père adoptif, Jim Hopper. Pensant que celui-ci était décédé, elle alla donc vivre avec sa mère, Joyce Byer, en Californie. Son père, Martin Brenner, est directeur du laboratoire Dawkins. Il veut améliorer les capacités télékinésiques de sa fille, héritée de sa mère. Grâce à ses pouvoirs, elle arriva à sortir du laboratoire. Jane est de taille moyenne, elle mesure 1m65 et est brune aux yeux bruns. Ses signes distinctifs, elle saigne du nez quand elle utilise ses pouvoirs. Ses points faibles, c'est qu'elle ne fait pas facilement confiance, et ses points forts, c'est qu'elle est indépendante, très protectrice et n'abandonne jamais. C'est une héroïne parce qu'elle a des capacités physiques et intellectuelles, elle se sacrifie et c'est le personnage principal d'une histoire.
Barry Allen dit Flash. Il vit à Central City au Missouri dans les États-Unis. Il sait voyager dans le temps. Son élément marquant, c'est qu'il devient Flash quand il travaille au labo et se fait frapper par la foudre. Il devient un méta-humain. Un autre élément marquant est quand sa mère se fait tuer par un deuxième Flash. Son père est suspecté du meurtre de sa mère et va en prison. Il se retrouve donc seul. Alors Joe, un policier et père d'Iris, le prend sous son aile et Barry Allen se mariera avec Iris et feront un enfant. Caractéristiques physiques. Il se déplace à la vitesse d'un éclair. Il a une endurance hors norme. Il peut défier la gravité en courant à la verticale ou sur l'eau sans s'y enfoncer. Il est tellement rapide qu'il peut faire des tourbillons en courant ou en tournant les bras à grande vitesse, qu'il utilise pour ralentir la chute d'un objet ou d'une personne, ou au contraire pour les projeter. Signe distinctif, il a un costume rouge avec le signe de la foudre sur la poitrine, et il court vite, et laisse un vent traîner près des objets ou des gens. Force et points faibles, il a une super vitesse et guérit plus vite. Endurance hors norme, l'une des faiblesses de Flash est son propre corps, car lorsqu'il court vite, il brûle plus de calories qu'un être normal et donc doit se nourrir plus souvent pour compter ses dépenses d'énergie. Et quand il fait froid, il court moins vite, il est ralenti. Objet ou élément fétiche, arme préférée, son costume. Trois raisons qui font de lui un héros, c'est qu'il sauve des vies, il a un super pouvoir et il combat des méchants.
Malala Yousafzai est née le 12 juillet 1997 au Pakistan, à Mingora. Elle est une toute jeune militante et symbole dans sa région natale, la vallée de Swat, au nord-ouest du pays, un secteur pris entre les feux des talibans et de l'armée. Malala est la fille de Ziauddin Yousafzai. Connue pour ses positions contre les talibans, Malala Yousafzai apparaît dès l'âge de 11 ans sur le site internet de la chaîne britannique BBC. Elle y témoigne de la violence des talibans envers les jeunes filles qui vont à l'école. Devenue une porte-parole, son école est même renommée en son honneur, une fois l'armée pakistanaise redevenue maître de la région, en mai 2009. Elle reçoit aussi, fin 2011, le prix pakistanais pour la paix. Mais en octobre 2012, les talibans tentent de l'assassiner à la sortie de son école. Touchée à la tête, elle est transférée à l'hôpital de Birmingham, au Royaume-Uni, où elle poursuit sa rééducation et son combat.
Wonder Woman est une super-héroïne de bande dessinée américaine créée par William Moulton Marston qui apparaît pour la première fois en octobre 1941 dans All-Star Comics. Elle est à cette époque l'une des premières super-héroïnes et demeure la plus célèbre d'entre elles. Puis elle est dotée de super-force, de super-vitesse, de télépathie est ressentimentale et elle peut voler. Donc Wonder Woman est une super-héroïne car elle a des super-pouvoirs et elle sauve des personnes.
Merci de nous avoir écoutés pour ces exposés d'héros réels et fictifs. Nous vous souhaitons une bonne journée.
Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.